Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle année 2021 et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous mes meilleurs voeux. Une émission ce matin préparée par Lucas Lazo, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde par Ludovic Auger. Deuxième temps de notre série consacrée donc à cette grande Bretagne post-Brexit. Après nous être penchés hier sur l'avenir politique de Boris Johnson, avant de revenir demain sur les perspectives économiques pour cette grande Bretagne affranchie de l'Union européenne, penchons-nous ce matin sur la question de l'unité du Royaume. Le Brexit sera-t-il le fossoyeur de l'Union britannique, en tout cas de Belfast à Édimbourg? On voit bien qu'on a une unité du Royaume à l'épreuve des nationalismes, on en parle tout de suite.
Je tiens à souligner que cet accord a été réalisé par une impressionnante équipe de négociateurs venus des quatre coins du pays et qu'il bénéficiera à chaque partie de notre Royaume-Uni, permettant de raffermir l'unité de celui-ci et d'améliorer la situation dans tout le pays. La demande d'un nouveau référendum pour l'indépendance en Écosse est devenue inéluctable. Et le Brexit a donné un nouvel élan pour ceux qui réclament une Irlande unie. Le pays de Galles court le danger de devenir le croupion du Royaume-Uni dans le cadre d'une formation Angleterre-Pays de Galles, ce qui serait la pire situation imaginable. Plus nous nous séparons du Royaume-Uni, mieux c'est. Vous savez que notre objectif réel, en tant que nationaliste, est d'avoir une Irlande unie. Nous aimerions être tous au même endroit. Les Britanniques ne devraient pas être ici du tout. Ils n'ont pas le droit d'être ici. Et nous ne voulons pas qu'ils soient ici. Alors ce que nous souhaitons, c'est rester pleinement en Europe et, espérons-le, voter pour une Irlande unie. C'est ça le rêve.
Dans l'ordre, les voix de Boris Johnson à propos de l'accord trouvé avec l'Union européenne, celle d'Adam Price, le leader du parti gallois Plaid Cymru, qui exprimait ses doutes quant à l'unité britannique, et puis Kieran Kennedy, chef d'entreprise en Irlande du Nord, qui souhaite que l'Irlande soit unie et reste dans le giron de l'Union européenne. L'Irlande du Nord, justement, cette petite province d'un peu moins de 2 millions d'habitants, si lointaine de Londres, trop souvent déconsidérée par Westminster, s'était retrouvée au cœur de toutes les craintes entourant le Brexit à cause d'un possible retour d'une frontière qui aurait mis en péril l'accord du Vendredi Saint signé en 98, qui avait permis de retrouver la paix après des décennies de violence. Finalement, Bruxelles et l'exécutif britannique sont parvenus à s'entendre au tout dernier moment et le spectre d'un retour d'une frontière avec les républiques d'Irlande est écarté. Pourtant, rien n'est gagné et l'unité britannique reste menacée. Du côté de Belfast, justement, d'abord, puisque désormais c'est la perspective d'une réunification de l'île irlandaise qui inquiète, mais aussi du côté d'Édimbourg, où depuis juin 2016, les nationalistes écossais mettent la pression pour obtenir une nouvelle consultation populaire sur l'indépendance, malgré la défaite du non lors du référendum de 2014. Même au Pays de Galles, on l'entendait, on évoque maintenant l'hypothèse d'une indépendance avec ce parti, le Plaid, qui a promis de prendre ce chemin en cas de victoire aux élections du Parlement gallois en mai prochain. Alors le Royaume-Uni pourrait-il s'effondrer sur lui-même? Jusqu'où les nationalismes irlandais, écossais, gallois et même anglais pourraient-ils s'exacerber? Qu'est-ce qui peut sauver l'unité britannique et à quel prix? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Agnès Maillot, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous ai entendu au loin, mais je vous ai entendu. Vous êtes professeur à l'Université de Dublin. Je vous remercie infiniment d'être avec nous. On a également Christophe Gillissen qui est avec nous. Bonjour Christophe Gillissen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'université de Caen. La question de l'Irlande du Nord et du retour d'une frontière avec la République d'Irlande avait été évidemment au cœur des discussions avec Londres. On l'a suivi pendant des mois, pendant des années. En Irlande du Nord, on s'inquiétait évidemment que ce Brexit ait des conséquences extrêmement néfastes sur une situation qui est quand même pacifiée grâce aux accords du Vendredi Saint depuis 98 maintenant. L'accord qui a été trouvé prévoit le maintien de l'Irlande du Nord dans le marché commun, l'instauration de contrôle douanier dans les ports pour les marchandises en provenance ou à destination d'Angleterre, donc pas de retour de la frontière. Comment a-t-on accueilli Agnès Maillot cet accord de dernière minute en Irlande du Nord? J'imagine qu'on est soulagé. Tout le monde est soulagé, Agnès Maillot.
Absolument. C'est ça qui est remarquable, c'est que tant les unionistes que les républicains nationalistes se sont dit soulagés qu'il y ait un accord, puisque l'absence d'un accord aurait été purement chaotique pour l'Irlande du Nord. Ce qui fait qu'on est dans une position un petit peu trouble, puisque le parti au pouvoir, le DUP, les unionistes démocratiques, avaient juré qu'il n'y aurait pas de backstop et qu'il refuserait toute solution qui donnerait à l'Irlande du Nord un statut différent de celui des autres parties du Royaume-Uni. Et en fait, ils se sont dit eux-mêmes soulagés, allant même jusqu'à dire que toute solution qui aurait réintroduit une forme de frontière aurait été, ou du moins une absence de solution, aurait été catastrophique pour l'Irlande du Nord. Mmh.
Christophe Gillissen, on se souvient effectivement que ces unionistes du DUP, le Parti démocratique unioniste, avaient plusieurs fois empêché la conclusion d'un accord avec Bruxelles, à l'époque trouvé par Theresa May. C'est quelque chose d'ailleurs, cette obstruction qui avait même poussé l'ancienne Première ministre à la démission. Quelle différence entre l'accord de Boris Johnson et celui qui avait été trouvé à l'époque par Theresa May, que les unionistes irlandais précisément avaient empêché, Christophe Gillissen?
Il n'y a pas de véritable différence sur le fond, c'est-à-dire que le principe essentiel est celui d'une frontière douanière en mer d'Irlande, entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Donc lorsque Theresa May avait proposé cette solution, il y avait eu une véritable levée de bouclier en Irlande du Nord au sein du parti unioniste démocrate. Il faut comprendre que pour les unionistes, l'objectif central, c'est de maintenir l'union entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Donc affaiblir cette union par une frontière douanière leur était totalement inacceptable. Et leur grande déception tient au fait que Boris Johnson a signé un accord tout à fait similaire. Alors l'habillage est un peu différent. Par exemple, il est prévu qu'au bout de 4 ans, l'Assemblée nord-irlandaise pourra se prononcer sur le maintien ou non de ce dispositif. Il y a donc une caution démocratique, mais sur le fond, c'est exactement la même chose. Et donc ça a été un petit peu difficile à accepter par le DUP, même si effectivement aujourd'hui tout le monde est soulagé qu'un accord a été trouvé, parce que autrement c'était effectivement le risque du chaos.
Agnès Maillot, ça veut dire quand même que quand on regarde un peu les choses froidement, on n'est quand même pas loin d'une... Alors j'entends évidemment que le DUP est soulagé, mais au regard de l'obstruction des unionistes pendant des mois avec l'accord trouvé par Theresa May, qui au fond n'est pas très différente de celui qu'on a aujourd'hui, c'est du coup quand même quelque chose qui ressemble à une forme de défaite politique pour les unionistes.
Alors, c'est une défaite politique dans le sens où ils ont été obligés d'admettre l'inévitable, c'est-à-dire que la solution qu'ils prônaient n'était pas envisageable. En revanche, c'est aussi curieusement ce qui va leur permettre de continuer à faire campagne pour le maintien de l'union, c'est-à-dire que s'il y avait eu un Brexit sans accord, la crainte était effectivement qu'on bascule vers une situation qui aurait rendu la réunification quasiment inévitable. Mmh. Là, ils ont en quelque sorte, et c'est ça l'ironie de la situation, ils peuvent se targuer d'avoir en quelque sorte préservé l'union, même si c'est pas celle qu'ils voulaient, mais en tout cas ne pas avoir mis l'union en danger. Or, elle l'aurait été s'il n'y avait pas eu d'accord. Donc, c'est toute l'ironie de la situation est là. Et le DUP, qui est le parti censé être le plus unioniste de tous les unionistes, s'est même fait retoquer par ses adversaires unionistes des unionistes de l'autre parti, qui les a même accusés d'avoir en fait franchi cette ligne rouge qu'ils avaient dit ne jamais vouloir franchir.
Mmh. Christophe Gillissen, Arlene Foster aujourd'hui n'est pas fragilisé politiquement malgré l'accord?
Il me semble qu'elle est fragilisée effectivement parce que il y a encore 2 ans, lorsque le DUP tenait, pour ainsi dire, le Parti conservateur et Theresa May en otage à Westminster, au Parlement britannique, puisque les conservateurs à l'époque n'avaient plus de majorité parlementaire et donc dépendaient du soutien des 10 députés du DUP. À cette période-là, le DUP avait l'impression de faire la loi à l'échelle de l'Europe entière, si j'ose dire.
À juste titre, parce que c'était un peu le cas. C'était, ils avaient quand même le pouvoir d'accepter ou de rejeter un accord qui avait été âprement négocié avec Bruxelles. Donc c'était un peu le cas quand même.
Absolument, ouais. Absolument. Et en l'espace de 2 ans, tout a changé du tout au tout, c'est-à-dire que depuis les élections législatives britanniques de décembre 2019, les conservateurs ont une majorité écrasante, n'ont plus besoin du soutien des unionistes, et donc Boris Johnson est revenu sur ses engagements, hein, il leur avait promis monts et merveilles, il leur avait dit que jamais un Premier ministre conservateur n'accepterait une frontière en mer d'Irlande, il s'est aussitôt empressé de le faire, et donc le retour sur terre a été assez dur pour le DUP, qui, soit dit en passant, a essuyé un revers électoral à l'occasion de ces élections. Hein, ils ont perdu 2 sièges, dont celui assez symbolique de Belfast. Donc le retour sur Terre est compliqué. Il y a eu un choc, une défaite considérable qu'ils sont en train de digérer.
Continuons un peu à faire de la politique politicienne parce que c'est quand même très important, Agnès Maillot. Est-ce que en face de cette fragilisation, même si vous la nuancez, vous, de la Première ministre Arlene Foster, il faut mettre nécessairement un renforcement du camp d'en face, du camp nationaliste. Pour rappel, pour le coup, le Sinn Féin avait réalisé un très bon score lors des élections législatives de février 2020. Le parti est arrivé premier des suffrages exprimés et pourtant, ça n'avait pas permis au parti de former un gouvernement. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, avec cet accord de dernière minute, ce Sinn Féin et ce camp nationaliste, même s'il n'est pas complètement uni, on y viendra peut-être, est renforcé aujourd'hui ou pas tellement, Agnès Maillot?
Il n'est pas plus renforcé, si vous voulez. Ce qui est ironique dans cette situation, c'est que on a un parti unioniste qui est effectivement fragilisé, puisque en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que les conservateurs sont beaucoup plus pragmatiques que les unionistes et que les principes auxquels ils disent tenir peuvent être bafoués du jour au lendemain, comme l'avait fait Boris Johnson juste après les élections de 2019 et comme ils viennent le faire maintenant. Donc en fait, les Irlandais et les partis de la République sont beaucoup plus à l'écoute des unionistes que ne le sont les conservateurs britanniques, ce qui est quand même une ironie assez importante, puisque eux veulent favoriser un dialogue, veulent les écouter, veulent prendre en compte ce qu'ils ont à dire, leurs craintes pour l'avenir, etc. Ce que ne font absolument pas les conservateurs britanniques. Donc on a une situation qui est assez ironique. Est-ce que ça renforce la main du Sinn Féin? Oui et non.
Pour autant, Agnès Maillot, disons les choses, pour autant, le Sinn Féin ne fait pas partie de la coalition gouvernementale en Irlande du Nord, quand même.
En Irlande du Nord, si. En Irlande du Nord, on a une coalition forcée, de toute manière. Mmh. Donc, quel que soit le gouvernement en place, il faut qu'il y ait une coalition. En République, ils n'ont pas réussi à imposer leur présence, parce qu'ils sont pour l'instant encore écartés par les deux autres partis qui ont préféré s'allier entre eux plutôt que de prendre le Sinn Féin comme partenaire d'une coalition éventuelle, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne continue pas un travail de terrain autour de la réunification, et ce travail porte en grande partie sur les conséquences du Brexit. Ouais.
Alors, on va, Agnès Maillot, peut-être vous remettre en régie, essayer de rétablir une connexion un peu meilleure, parce qu'on vous entend là très mal, il y a beaucoup de coupures. Vous aviez raison de préciser qu'effectivement le Sinn Féin participe à la coalition gouvernementale, je me suis mal exprimé, elle ne la mène pas en réalité, même si elle y participe, vous avez raison, elle était arrivée en premier, donc on aurait pu penser que c'était au Sinn Féin précisément de former un gouvernement, sauf que elle a échoué à le faire, et c'est la raison pour laquelle Arlene Foster, elle, chef de file des unionistes, est redevenue Première ministre, c'était en janvier 2020. Christophe Gillissen, cette perspective justement de la réunification, on sait qu'elle était totalement inenvisageable pendant des années, et cette question est revenue sur le devant de la scène à la faveur de ce Brexit. Est-ce qu'il est toujours aussi fort aujourd'hui, ou finalement cet accord trouvé in extremis évacue, en tout cas pour un temps, cette perspective, Christophe Gillissen?
Alors, à court terme, en effet. Simplement, l'accord met en place un début de réunification économique, puisque les biens circulent librement dans l'île d'Irlande, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Ils ne circulent plus librement entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Il y a également le fait qu'un certain nombre de normes, de réglementations européennes continuent de s'appliquer en Irlande du Nord pour préserver justement cette libre circulation des biens. Ces normes et ces réglementations sont tributaires des décisions de la Cour européenne de justice, tout comme c'est le cas en République d'Irlande, mais ce n'est plus le cas en Grande-Bretagne. Et enfin, on note qu'un certain nombre d'éléments, par exemple les taux de TVA, sont désormais alignés sur ceux de la République d'Irlande et non plus sur ceux de la Grande-Bretagne. Donc, vous voyez, il y a là une amorce qui va favoriser une intégration plus grande du point de vue économique. À terme, ça pourra avoir une incidence sur les décisions politiques. Pour l'instant, en revanche, il ne semble pas du tout à l'ordre du jour, que ce soit à Belfast, où les unionistes se définissent par leur attachement à l'union avec la Grande-Bretagne, et à Dublin, je ne parle pas du Sinn Féin, qui n'est pas donc au pouvoir, mais les deux formations principales sont extrêmement prudentes, savent que aborder la question de la réunification va braquer les unionistes, va raviver les tensions et donc cela avance très doucement. Un programme a été lancé, c'est le programme de l'île partagée, Shared Island. On partage une île, on ne parle pas de réunification, l'idée est d'apaiser la situation le plus possible. Donc à court terme, la réunification n'est pas à l'ordre du jour. En revanche, elle devient plausible, voire probable à moyen ou à long terme, semble-t-il.
L'accord commercial du Brexit ne m'affectera pas, parce que je suis un vieux retraité. Mais certains de mes amis sont agriculteurs. Cela va avoir un impact massif sur eux. Je ne connais personne dans la pêche, mais je sais que cela aura également un grand impact sur l'industrie de la pêche.
L'accord commercial du Brexit va nous affecter tous négativement parce que tout va être plus cher. Ces contrôles supplémentaires à la frontière ou quoi que ce soit d'autre vont se refléter sur le prix des choses de tous les jours, comme dans les petits supermarchés, malheureusement. Tout le monde aura à subir les conséquences de l'accord sur les prix. Donc oui, ça va m'affecter.
Voilà, témoignage de deux Nord-Irlandais inquiets des conséquences du Brexit. Agnès Maillot, parce que effectivement, il n'y aura pas de retour de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. En revanche, on va quand même avoir des effets. On risque d'avoir un commerce entre l'Irlande du Nord et le reste de du Royaume-Uni qui va être altéré par de nouveaux contrôles douaniers. Comment voyez-vous justement ces conséquences économiques sur le plan commercial? Quelles évolutions attendre? Est-ce que vous pensez que tout cela risque d'être à la marge ou qu'on aura une profonde dégradation économique à la clé peut-être? Et pour rejoindre ce que disait Christophe Gillissen, est-ce qu'il vous semble que justement on va vers une situation de plus forte intégration économique de l'île d'Irlande et donc on avance encore sur le chemin de cette réunification, même si pour le moment, sur le plan politique, on n'ose pas trop en parler. Agnès Maillot. On a perdu Agnès Maillot. Christophe Gillissen. Alors je vous repose cette question de l'intégration économique entre les deux territoires. Jusqu'où est-ce qu'il vous semble qu'elle peut aller justement cette intégration? Parce qu'on sait bien qu'avec les accords de 98, on a beaucoup renforcé ces échanges entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, y compris d'ailleurs sur la zone frontalière où là c'est très 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 notable, particulièrement notable, où on a vraiment des entreprises qui travaillent quasiment main dans la main, notamment dans le secteur agricole, mais pas seulement. Est-ce qu'il vous semble qu'on va accentuer encore ce mouvement-là et que effectivement il pourrait conduire de part et d'autre, du côté de l'Irlande du Nord, mais aussi du côté de la République d'Irlande, vers le constat que en réalité, oui, c'est vers une réunification que ces territoires doivent aller naturellement.
C'est en tout cas ce que l'on observe depuis la fin des années 1990, c'est-à-dire que pendant très longtemps, cette frontière qui était contrôlée, hein, donc on ne pouvait pas circuler librement, il y avait des droits de douane, il y avait toutes sortes de choses, cette frontière a eu un effet très négatif de part et d'autre, puisque la frontière, dans certains cas, traverse des villages, elle crée des enclaves, c'est une frontière assez sinueuse, hein, avec un tracé parfois assez étonnant. Et donc, il y avait de nombreux commerces qui étaient coupés de leur clientèle naturelle, de leurs fournisseurs naturels, et au fil des décennies, puisque la partition a 100 ans, hein, elle a été mise en place en 1920, les régions frontalières ont subi le contre-coup, notamment pendant les années du conflit, entre 1968 et 1998, puisque la frontière était sécurisée de manière beaucoup plus prononcée et que le conflit a eu un impact considérable sur la vie économique. Donc depuis la fin des années 1990, depuis une vingtaine d'années, cette région frontalière, au nord et au sud, a connu un essor relatif, c'est-à-dire que les échanges ont pu reprendre, les entreprises ont pu élargir leur clientèle, des partenariats se sont formés, il y a un tissu industriel assez dense qui s'est constitué, vous le disiez, notamment dans le secteur agricole et agroalimentaire, hein, vous avez beaucoup de chaînes de production qui sont transnationales, transfrontalières, avec de l'élevage au nord ou au sud, la transformation de l'autre côté de la frontière. Il y a eu une intégration discrète, mais assez remarquable, qui a contribué à une certaine prospérité. Et grâce à l'accord, tout cela pourra être maintenu. Comme il était signalé dans le reportage, en revanche, les échanges entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne seront, dans une certaine mesure, pénalisés. Il faudra faire des déclarations de douane, il y aura des contrôles, notamment phytosanitaires, il y aura des représentants de l'Union européenne présents à Belfast, hein, pour vérifier que ces contrôles sont effectués avec toute la rigueur nécessaire. Et donc, tout cela risque effectivement d'amener un certain décrochage relatif entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, et à l'inverse, de contribuer à un rapprochement entre le Nord et le Sud.
Agnès Maillot, ce rapprochement entre le Nord et le Sud, et même entre le Nord et l'ensemble de l'Union européenne, quelle forme aura-t-il sur la question du soutien financier? Parce que on sait bien que l'Irlande du Nord a bénéficié longtemps d'un soutien financier important de la part de l'Union européenne, notamment à travers un certain nombre de programmes de soutien à la paix, de soutien à la réconciliation. D'abord, peut-être, Agnès Maillot, pouvez-vous nous rappeler un peu l'ampleur de ce soutien financier européen et qu'est-ce qu'il va devenir avec le Brexit, avec l'accord qui vient d'être signé? Quelles conséquences? Est-ce que c'est la fin des crédits européens à destination de l'Irlande du Nord? Est-ce qu'on va continuer à donner de l'argent dans le cadre de programmes divers et variés? Est-ce qu'on sait un peu des choses là-dessus, Agnès Maillot?
Pour ce que j'en sais, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni s'est engagé à continuer à financer les programmes de paix qui sont les programmes européens et qui sont des programmes qui encouragent des initiatives transfrontalières ou des initiatives entre les deux communautés. Donc le gouvernement britannique s'est engagé à continuer à financer ces programmes. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est que la PAC, la politique agricole commune, finance à un niveau extrêmement élevé l'agriculture nord-irlandaise, et ça, évidemment, c'est remis en question. Donc, comme le disait Christophe, ce qui va être très compliqué dans les années à venir, même dans les mois à venir, c'est de voir en quoi l'économie nord-irlandaise est pénalisée ou bénéficie de ce nouvel accord. Et ça, c'est évidemment déterminant pour toute conversation future sur les bienfaits d'une éventuelle réunification ou du maintien de l'Union. Pour l'instant, on est un petit peu dans une incertitude puisque cet accord vient juste d'être signé et qu'on n'a pas encore la réalité sur le terrain de ce que ça va signifier en termes de délai, par exemple, de délai pour les importations, les exportations, en termes de coûts, etc. Donc, pour l'instant, on est dans une situation un petit peu entre parenthèses. Mais effectivement, c'est plus du côté économique que se fait l'argument de tous ceux qui prônent la réunification, puisqu'ils disent que d'un point de vue économique, ça a de moins en moins de sens de maintenir cette frontière D'autant plus que maintenant, l'Irlande du Nord est davantage tournée vers le sud qu'elle l'est vers l'est.
Agnès Maillot, la fin des financements dans le secteur agricole pour l'Irlande du Nord, c'est grave, docteur. Je pourrais poser la question autrement. On pourrait se demander quel effet ça a eu précisément sur le secteur pendant ces dernières années. Agnès Maillot.
L'effet exact que cette mesure a eu sur le secteur, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que l'Irlande du Nord est sous perfusion financière de Londres depuis toujours. C'est-à-dire que l'Irlande du Nord n'est pas une entité économique autonome. Elle ne peut survivre que grâce aux subventions britanniques qui sont quand même dues à une échelle considérable. On parle d'une dizaine de milliards par an. Donc, si on ajoute à ça ce que va perdre l'Irlande du Nord par rapport à ce qu'elle touchait des revenus européens, ça veut dire que le Royaume-Uni va être obligé de contribuer encore plus à l'économie nord-irlandaise, ce qui fait une situation d'autant plus précaire pour l'économie nord-irlandaise. Ceci dit, il y a de plus en plus d'économistes qui disent que l'Irlande du Nord pourrait en fait bénéficier de ce nouveau statut qu'elle va avoir par rapport au reste de l'Union européenne et par rapport à la République d'Irlande, puisqu'elle tout d'un coup elle est dans une situation un petit peu privilégiée, étant le point de transition entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc ça peut favoriser des investissements étrangers, ça peut favoriser une économie qui est pour l'instant relativement stable, malgré la crise du Covid, mais qui reste quand même sous perfusion britannique.
Christophe Gillissen, on va essayer d'améliorer Agnès Maillot. Christophe Gillissen, sur la question justement des subventions, est-ce que Londres et Boris Johnson ont prévu de compenser ce manque à gagner de ces financements qui ne viendront plus demain de l'Union européenne? Est-ce qu'on a prévu de compenser ça? Agnès Maillot a raison de le rappeler, l'Irlande du Nord, c'est le territoire le plus soutenu financièrement par Londres. C'est là où le coût des dépenses publiques par habitant est le plus élevé. On est pratiquement à 11 000 livres par habitant contre à peu près 9 000 livres en moyenne pour l'ensemble de la Grande-Bretagne. Ce manque à gagner, l'argent qui ne viendra plus de l'Europe, on va le compenser ?
Alors, d'après les déclarations qu'on a pu entendre, oui. Par exemple, Agnès Maillot évoquait l'importance de la politique agricole commune, les subventions versées aux agriculteurs nord-irlandais. C'est tout à fait considérable. En moyenne, ces subventions représentent 85% du revenu moyen d'un agriculteur en Irlande du Nord. C'est colossal. Ils ne peuvent pas s'en passer. Donc, des déclarations ont été faites à Londres selon lesquelles ces subventions seraient compensées par le Trésor britannique. Mais dans la pratique, certains Irlandais du Nord ont des doutes quant à la valeur de ces promesses, de ces engagements, qui n'ont pas été écrits, et on a vu que il peut y avoir des retournements assez abrupts. D'autant plus que dans le contexte actuel, avec la pandémie, l'économie britannique, comme beaucoup d'économies en Europe ou ailleurs, a subi un contre-coup très dur. S'y ajoute le coût du Brexit, impossible à évaluer avec certitude à ce stade, mais selon les prévisions du gouvernement britannique lui-même, ça se traduira par une baisse du PIB de 4 à 5% dans les années à venir. Donc dans un tel contexte, s'il fallait faire des économies budgétaires, on ne peut pas exclure qu'elles se fassent en partie sur le dos de l'Irlande du Nord.
Bien sûr. On reviendra d'ailleurs sur les questions économiques demain, ça sera notre sujet. Agnès Maillot, on vous a retrouvé par téléphone. Faisons l'hypothèse, même si j'entends qu'elle est pour l'instant assez improbable, mais formulons-la quand même, d'une indépendance de l'Irlande du Nord. Est-ce qu'elle aurait les moyens de cette indépendance? On entend Christophe Gillissen nous rappeler combien, effectivement, l'Irlande du Nord a besoin des financements de Londres. Est-ce que on peut se passer totalement de ces subventions? Quelles conséquences ça pourrait avoir pour le territoire, Agnès Maillot?
Alors, non, ils ne peuvent pas se passer de ces subventions, même si elles sont... à l'heure actuelle, l'Irlande du Nord subventionne... elle reçoit une subvention, mais elle participe en quelque sorte à cette subvention, puisqu'elle subventionne par exemple l'armée britannique, etc. Donc il y aurait un certain nombre de des coûts sur le budget nord-irlandais qui n'existerait plus si elle était coupée du reste du Royaume-Uni. La question de l'indépendance de l'Irlande du Nord, en fait, personne ne la soulève, enfin très peu de gens la soulèvent, puisqu'elle n'intéresse pas grand monde. Il est deux solutions qui sont proposées, c'est soit la réunification, soit le maintien au sein de l'Union. L'indépendance, ça a été l'objet de fantasmes d'une petite minorité, mais en fait, parmi la population ou même parmi les partis politiques, personne ne l'évoque comme solution à cette question qui reste sans solution depuis des décennies.
Oui, je me suis mal exprimé, pardon, quand je disais indépendance, c'est effectivement émancipation vis-à-vis de Londres. Pardonnez-moi, c'était une formule tout à fait inadéquate, vous avez raison.
Mais non, parce que c'est une question qui est soulevée aussi, c'est-à-dire que est-ce que l'Irlande du Nord, effectivement, pourrait être indépendante, parce que ce qu'on a constaté au fil des ans, et surtout depuis les accords de paix et depuis les institutions, le gouvernement nord-irlandais autonome, c'est que ce que préfèrent les électeurs et ce que préfère l'opinion publique, c'est une Irlande du Nord qui soit autonome au sein du Royaume-Uni. C'est ce que quand ça marche, quand ça fonctionne, quand les institutions fonctionnent, c'est ce vers quoi tend l'opinion publique. Et pour l'instant, ce qu'on ne sait pas, et la grande inconnue, c'est effectivement, d'une part, ce que va donner le Brexit et la pandémie en termes d'impact sur l'économie de la région. Et d'autre part, on va avoir en 2021 un recensement. Au Royaume-Uni, les recensements se tiennent tous les 10 ans. Et donc le dernier date de 2011, et là on attend avec impatience les résultats du recensement de 2021, puisque la démographie, même si on essaye de pas l'intégrer entièrement au calcul sur l'avenir de l'Irlande du Nord, la démographie est importante, parce qu'on continue en Irlande du Nord à avoir malgré tout deux communautés, une communauté nationaliste, une communauté unioniste, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus tous ceux qui se situent entre les deux, qui ne sont plus dans cette identification binaire et qui sont dans l'entre-deux.
Et ils sont importants, justement. Ils représentent une part importante de la population désormais.
Ils pourraient représenter jusqu'à 20% de la population. C'est-à-dire qu'on on s'oriente de plus en plus vers une situation où on aura 40% d'un côté, 40% de l'autre et 20% au milieu. C'est ces 20% qui sont absolument cruciaux pour les tenants de la réunification et ceux du maintien de l'Union. Donc c'est cela qu'il faut aller convaincre, soit des bienfaits de la réunification ou bien du maintien de l'Union. Et évidemment, la clé de tout ça, ça va être le Brexit, ça va être les retombées du Brexit, et ça va être la façon dont la République d'Irlande va gérer aussi ses relations avec l'Irlande du Nord, puisque on voit que en République d'Irlande, il y a un mouvement vers l'Irlande du Nord, avec la création d'une officine du gouvernement qui est chargée d'analyser toutes ces questions de rapprochement, etc. Donc il y a un mouvement qui est véritablement ancré maintenant dans la culture politique du pays. Maintenant reste à voir ce que donne ce recensement, mais ce que donne le Brexit, la pandémie, etc.
J'entends donc, dans ce que vous nous dites, Agnès Maillot, qu'aujourd'hui, l'opinion nord-irlandaise se structure moins qu'hier, en tout cas, autour de ce clivage unioniste, indépendantiste, catholique, protestant. En tout cas, il y a un mouvement de dépassement de ces clivages politiques et confessionnels. Mais continuons dans les hypothèses, Agnès Maillot. On a beaucoup parlé, on a beaucoup craint ces derniers mois ce retour d'une frontière et donc possiblement d'un retour des violences. Dans l'hypothèse, là encore, faisons des hypothèses, Agnès Maillot, d'un référendum qui donnerait la victoire pour la réunification de l'ensemble de l'île. Est-ce qu'il faut craindre une réactivation des milices protestantes loyalistes?
Alors, c'est évidemment un des nombreux épouvantails qui est régulièrement levé par les opposants à la réunification. Dans la pratique, c'est difficile de se prononcer, évidemment, mais dans la pratique, on ne voit pas, on voit une résistance très prononcé de la part des loyalistes qui restent extrêmement campés sur leur position par rapport à l'Union. Est-ce que ça se traduirait par une remise en route des organisations paramilitaires qui par ailleurs continuent à exister mais qui ne sont plus du tout actives sur le plan politique, elles sont actives sur d'autres plans, ce n'est pas une hypothèse qui semble suffisamment sérieuse pour être en tout cas pour servir de repoussoir à la perspective de la réunification, mais ceci dit, la clé de toute avancée vers la réunification, c'est le dialogue. Et ça, tout le monde en est convaincu, y compris le Sinn Féin, qui est le parti le plus engagé sur le terrain de la réunification. Même pour eux, la clé de la réunification, ça sera le dialogue. Donc, ça prendra le temps qu'il faut. Le Royaume-Uni, pour l'instant, n'est absolument pas prêt, ne serait-ce qu'à accorder un référendum en Irlande du Nord, puisqu'il craint évidemment de mettre en place un processus qui serait par la suite irréversible. Mais en même temps, personne à l'heure actuelle ne songe à imposer quoi que ce soit, donc on attend le moment. Mmh. Et je pense que ce que tout le monde attend, c'est de voir dans les mois qui viennent comment tout ça va se jouer sur le terrain.
Et en revanche, il y a un endroit où justement on l'attend, en tout cas une bonne partie de la population, ce référendum, c'est du côté de l'Écosse. On va se diriger tout de suite vers l'Écosse. On est avec vous Agnès Maillot, avec vous Christophe Gillissen de Belfast à Édimbourg. L'unité du Royaume à l'épreuve des nationalismes dans cette semaine consacrée à cette Grande-Bretagne post-Brexit. Keep calm and carry on, direction donc l'Écosse.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Un avenir où notre propre Parlement et notre propre gouvernement seront redevables devant le peuple écossais, seront responsables des décisions et des partenariats internationaux qui déterminent notre orientation et notre destinée. Un avenir où nous continuerons à être un lieu ouvert et accueillant pour vivre, étudier et travailler, ainsi qu'un membre estimé de la famille européenne des nations. Ne vous y trompez pas. Dès ce soir, cet avenir ne nous est ouvert qu'avec l'indépendance.
Voilà la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui l'année dernière affirmait avec force sa détermination à obtenir l'indépendance pour réintégrer le collectif européen. C'est une conviction qui est toujours là aujourd'hui, comme elle l'a montré dans un message récent il y a quelques jours, dans lequel elle réaffirmait sa volonté d'obtenir de Boris Johnson et du Parlement britannique un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Rappelons qu'il y a eu un référendum en 2014 qui avait vu la victoire du non. Alors jusqu'où l'opinion a évolué avec la sortie effective de l'Union? Est-ce que Nicola Sturgeon peut redonner à l'Écosse son indépendance et réintégrer l'Europe? Bonjour Nathalie Duclos.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'université de Toulouse 2, Jean Jaurès. On a longtemps craint un no deal. Finalement, Londres et Bruxelles ont trouvé un accord de dernière minute. Comment a-t-on accueilli les choses du côté d'Édimbourg? Est-ce qu'on considère que c'est un bon deal pour les Écossais ou finalement ça ne change absolument rien à l'objectif de l'indépendance?
Il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que le no deal aurait été in fine catastrophique pour les indépendantistes parce qu'il aurait créé une frontière entre le Royaume-Uni et l'Europe plus grande que celle qui n'existe aujourd'hui. Et dans la perspective d'une indépendance future d'une Écosse au sein de l'Union européenne, tout ce qui est de nature à atténuer la frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est une bonne chose. Après, politiquement, les indépendantistes se sont très fortement opposés à l'accord signé par l'équipe de Boris Johnson, un accord qui n'a pas du tout pris en compte les desiderata de l'Écosse.
Quelles étaient ces attentes de l'Écosse ?
Mais les attentes de l'Écosse étaient depuis le début d'être en fait d'un Brexit, d'un soft Brexit, c'est-à-dire d'un Brexit mou qui aurait permis le maintien du Royaume-Uni dans son ensemble ou de l'Écosse si le reste du Royaume-Uni ne souhaitait pas rester dans l'union douanière et dans le marché unique. Donc
ça, c'était une conviction qui était partagée, y compris dans le camp nationaliste, parce que on se dit qu'a priori, justement, cette solution du soft Brexit ne faisait pas les affaires des indépendantistes.
Si, comme je vous disais, tout ce qui les indépendantistes pensent à l'avenir, à un avenir dans lequel l'Écosse serait indépendante et rejoindrait l'Union européenne. Donc tout ce qui est de nature à ne pas créer une frontière rigide entre l'Écosse et l'Angleterre post-indépendance est une bonne chose.
Oui, mais on pouvait conserver, vous voulez dire, on pouvait conserver cet objectif quand même de l'indépendance. Pour l'avoir justement cette indépendance, il faut organiser un nouveau référendum. Or là, on a un blocage clair du côté de Boris Johnson, et il faut avoir l'aval du gouvernement de Westminster pour une nouvelle consultation. Est-ce que vous pensez que Boris Johnson pourrait finir par l'accepter ? Est-ce que Édimbourg a des leviers pour justement faire plier ce gouvernement ?
Alors, officiellement, le gouvernement écossais dit qu'il fera plier le gouvernement britannique par la seule pression démocratique populaire. Et vu que les indépendantistes ont prévu, en tout cas, les sondages indiquent que les indépendantistes remporteront une majorité absolue aux prochaines élections législatives écossaises, le gouvernement écossais dit aujourd'hui que ça sera suffisant pour faire céder le gouvernement britannique devant la pression populaire. En réalité, il me paraît peu probable que Boris Johnson, en tout cas qu'un gouvernement britannique mené par Boris Johnson, qui a de nombreuses reprises indiqué qu'il ne dirait jamais oui à un deuxième référendum, cède à... Les indépendantistes écossais ont déjà remporté de très nombreuses élections. Ils ont remporté toutes les élections en Écosse depuis 2014. Pourquoi est-ce que Boris Johnson céderait cette fois-ci plutôt que les autres fois?
Enfin, il y a un scrutin qu'ils ont quand même pas gagné. C'est le référendum de 2014, précisément, où 55% des suffrages exprimés étaient allés au non. Est-ce que aujourd'hui, les études d'opinion montrent que les choses ont changé maintenant que le Brexit est passé?
Alors jusqu'au début de l'année 2020, les choses n'avaient que peu changé, mais c'est la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne en janvier 2020 et la réélection des conservateurs à Londres en décembre 2019 qui a fait basculer du côté de l'indépendance les quelques pourcents qui manquaient aux indépendantistes. Et depuis, on voit que là, on en est au 17e sondage d'opinion d'affilée à donner une majorité d'Écossais pour l'indépendance. Mmh. Et une majorité confortable avec pas moins de 58% pour le dernier sondage en date.
Ah oui, c'est très confortable. Pour le moment, effectivement, on a une première ministre écossaise qui se tient à cette ligne légaliste, qui tient au respect de la Constitution. Et donc, elle l'a dit d'ailleurs dans une récente tribune publiée notamment dans le Figaro, voilà, on va suivre la voie légale et constitutionnelle. Mais est-ce que ça représente l'ensemble du camp indépendantiste, ou est-ce qu'on a peut-être des voix qui disent, eh ben, il faut y aller plus fort, faut mettre davantage la pression, peut-être faut-il même organiser un référendum consultatif non contraignant, mais qui va mettre la pression sur Londres, le scénario un peu à la catalane, même si on a vu ce que ça donnait, mais est-ce que ce scénario-là pourrait aussi se dessiner sous la pression d'une frange peut-être plus radicale que celle incarnée par Nicola Sturgeon?
Ce qui est tout à fait vrai dans ce que vous dites, c'est que le camp indépendantiste est un petit peu en train de se craqueler face au refus répété du gouvernement de Londres d'accorder un nouveau référendum. Et donc, il y a de plus en plus de pression sur le gouvernement écossais et sur la première ministre écossaise pour qu'elle propose un plan B, qu'elle détaille quel serait son plan B en cas de nouveau refus de Boris Johnson. Ce qu'elle se refuse à faire, stratégiquement, bien sûr. Alors, plutôt que de scénario à la catalane que très très peu de gens souhaitent en Écosse, parce que on voit bien que cela n'a abouti à rien en Catalogne, et surtout cela n'a pas abouti au soutien de la communauté internationale que les indépendantistes écossais veulent à tout prix. Et donc, plutôt que ce scénario à la catalane, ce que certains dans le camp indépendantiste souhaiteraient que Nicola Sturgeon précise, ce serait une stratégie dans laquelle elle porterait la question d'un nouveau référendum devant les tribunaux. Cela pourrait aller jusqu'à la Cour suprême britannique. La question étant de savoir s'il ne serait pas possible pour le gouvernement écossais d'organiser un référendum purement consultatif sur la question de l'indépendance.
Je reviens sur le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, Nathalie Duclos. Vous disiez les études d'opinion aujourd'hui mesurent à peu près 55% de la population favorable à l'indépendance. Quand on revient en arrière, il y a 10 ans, les Écossais qui étaient favorables à l'indépendance, on les comptait pas sur les doigts d'une main, faut pas exagérer, mais c'était même pas un tiers de la population. Aujourd'hui, c'est donc plus de la moitié, vous le dites. Est-ce que ce Brexit suffit à expliquer cette évolution de l'opinion ? Ou en réalité, il faut aussi voir derrière autre chose et peut-être une fracture qui est en train de s'accroître entre l'Écosse et Londres, qui va au-delà de la question européenne.
Oui, c'est tout à fait vrai. Le désir d'appartenance à l'Union européenne n'est pas le moteur principal de l'indépendantisme. Là où le Brexit a joué un rôle principal, c'est, comme je le disais tout à l'heure, qu'il a fait basculer les pourcents manquants. Toutefois, le moteur principal de l'indépendantisme en Écosse, c'est le fait que les Écossais ne votent pas de la même manière que les Anglais. Et ça s'est vu au moment du Brexit, très très clairement. Mais ça se voit également à chaque fois finalement que les conservateurs remportent des élections à l'échelle britannique. Il faut savoir que les Écossais n'ont pas voté majoritairement pour le Parti conservateur depuis le début des années 60. Et donc à chaque fois qu'on a une période où on a des gouvernements conservateurs à Londres, la fracture entre l'Écosse et l'Angleterre s'élargit. Et là, on est dans une situation où ça fait maintenant plus de 10 ans que les conservateurs sont au pouvoir à Londres. Et donc, si vous ajoutez c'est une politique conservatrice d'austérité que les Écossais ne souhaitent pas dans leur majorité, si vous ajoutez cela au Brexit, eh bien, vous donnez une fracture politique qui paraît désormais insurmontable.
Je voudrais faire réagir à Christophe Gillissen, qui est resté avec nous. Vous êtes, je le rappelle, professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'université de Caen. Que vous inspire ce cas écossais et cette fracture entre l'Écosse et l'Angleterre? On l'a évoqué à propos de l'Irlande du Nord et l'Angleterre. Je le disais tout à l'heure au début de l'émission, je rappelais aussi que du côté du Pays de Galles, on a aussi, alors sinon des velléités, au moins quelques aspirations à suivre ce chemin de l'indépendance. On entendait un extrait du chef du parti Plaid, Adam Price, qui le mois dernier expliquait qu'il défendrait la perspective d'une indépendance du Pays de Galles vis-à-vis de Londres dans l'hypothèse d'une victoire de son parti aux élections du printemps prochain. C'est vrai qu'on a là quelque chose d'un peu général en Grande-Bretagne, avec une fracture de plus en plus forte et des nationalismes qui croissent. C'est assez inquiétant. Est-ce qu'il vous semble que ça peut se généraliser et prendre de l'ampleur au point, eh bien, tout simplement de faire tomber cette Grande-Bretagne?
La fragilisation que vous évoquez est indéniable, et je crois que si on veut bien cerner la portée du Brexit, il faut le concevoir comme une manifestation du nationalisme anglais. Et donc, c'est un projet dans lequel les Écossais ne se reconnaissent pas, un projet dans lequel les Irlandais du Nord, qui ont également voté contre le Brexit, ne se reconnaissent pas, et les Gallois commencent à hésiter.
Pardon Christophe Gillissen, mais comment il se manifeste ce nationalisme anglais? Parce que jusqu'ici, on a parlé de nationalisme irlandais, écossais, gallois, mais pas de nationalisme anglais. Il se manifeste comment concrètement?
Alors justement, c'est l'un des grands enjeux, me semble-t-il, que doit confronter le Royaume-Uni. Ce nationalisme anglais, contrairement au nationalisme écossais ou nord-irlandais, je rappelle que depuis plus de 20 ans, ces régions, disposent de leur propre assemblée régionale, de leur propre parlement régional, ce qui permet donc de donner une voix à cette identité écossaise ou nord-irlandaise ou galloise. En revanche, il n'y a rien de comparable en Angleterre, donc aucun espace où structurer un discours, et donc le nationalisme anglais cherche à se structurer, mais ça se fait par le biais de partis comme le UKIP de Nigel Farage, hein, qui se présentait comme le parti de l'indépendance du Royaume-Uni, mais qui en fait est essentiellement un parti anglais. Il n'a pas remporté de siège en dehors de l'Angleterre, à part quelques petits sièges au Pays de Galles.
Pardonnez-moi, ça veut dire que peut-être que la solution pour éviter justement cet éclatement serait de permettre à ce nationalisme anglais de prendre chair dans des institutions politiques, et donc par exemple dans un nouveau parlement anglais. Ça serait un moyen peut-être de garder cette unité.
Peut-être. Il y a une réflexion en cours au Royaume-Uni depuis une quinzaine d'années ou plus. Différentes solutions ont été envisagées. Plusieurs assemblées régionales en Angleterre, qui est quand même un territoire beaucoup plus grand et plus peuplé que l'Écosse. Hein. Donc on pourrait avoir plusieurs... Mais ça n'a pas abouti. Il y a eu une réflexion sur l'opportunité de créer un parlement anglais à l'image du Parlement écossais. Là non plus, ça n'a pas abouti. Et donc, il me semble que c'est ce qu'on appelle la question d'Angleterre. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution au Royaume-Uni. Et donc, ce nationalisme anglais a pris une coloration parfois, comment dire, anti-européenne, d'où le Brexit, d'où le UKIP. Il y a également un certain nombre de très petits partis qui relèvent de l'extrême droite, hein, qui affichent cet attachement au nationalisme anglais. Il y a là une question qui n'a pas encore été résolue, qui a trouvé une voie dans le Brexit, mais le Brexit n'apportera pas de solution, puisque ça va se traduire par des retombées négatives, que ce soit à l'échelle du Royaume-Uni, l'unité du pays, que ce soit sur le plan économique. Et donc, il me semble qu'il y a là un véritable problème. Des gens comme Boris Johnson ont voulu profiter de cette force identitaire ou nationaliste anglaise à leur propre fin pour arriver au pouvoir, par exemple, mais ne semble pas en mesure de le structurer et de lui donner une assise qui permettrait de renforcer la stabilité.
Merci beaucoup à tous nos invités, Christophe Gillissen, Nathalie Duclos, Agnès Maillot. Merci infiniment à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces nationalismes qui mettent à l'épreuve cette unité de la Grande-Bretagne. On poursuivra demain justement notre série britannique post-Brexit. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors les journaux, magazines et autres revues anglo-saxonnes publient ordinairement dans leur dernier numéro de l'année la liste des livres qui ont paru les plus intéressants à leur rédaction, Brice.
Oui, et c'est souvent révélateur des orientations de ces publications. L'éditorialiste du New York Times, David Brooks, a décidé depuis un certain temps de publier sa propre liste des articles qui l'ont frappé au cours de l'année écoulée. Alors David Brooks, probablement c'est un nom qui vous dit quelque chose, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est lui qui a inventé le mot « bobo » il y a 20 ans, les fameux bourgeois bohèmes. Mais David Brooks vaut beaucoup mieux que ça, et beaucoup mieux d'ailleurs que ce que dit de lui en français sa fiche Wikipédia, qui a été rédigée, comme c'est trop souvent le cas, par des gens qui le détestent. Alors David Brooks commence par déplorer le recul de la liberté d'expression aux États-Unis. James Robert Flynn, qui a dirigé pendant plus de 30 ans le département de sciences politiques de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande, vient de mourir. Alors même que son livre « In Defense of Free Speech », en défense de la liberté d'expression, a été refusé in extremis par son éditeur Emerald. Le directeur a estimé qu'il risquait, je cite, de susciter des inquiétudes car il traite de sujets sensibles tels que la race, la religion et le genre. Mais la fameuse éditorialiste britannique féministe Julie Burchill vient de subir exactement le même sort au Royaume-Uni. Son livre « Welcome to the Woke Trials »,« Bienvenue au procès woke », a été refusé par son éditeur. Le prétexte, elle aurait tenu des propos islamophobes sur Twitter. Julie Burchill avait simplement mentionné l'âge de l'une des épouses de Mahomet. Les propos tenus par Julie ont outrepassé ce que nous estimons acceptable en matière de race et de religion, a déclaré le patron de Little Brown, l'éditeur en question. Mais n'est-ce pas parce qu'elle s'attaque au mouvement woke que Burchill a été censurée?
Et Brice, la montée de l'intolérance a été dénoncée par une lettre ouverte sur la justice et le débat ouvert, publiée en juillet par le magazine Harper's.
Oui, de nombreux signataires. Elle a démontré que la liberté d'expression conservait de nombreux défenseurs parmi des intellectuels américains. Parmi eux, Brooks cite en particulier Jonathan Roach. C'est un essayiste connu pour avoir été un des premiers défenseurs du mariage homosexuel dans un livre paru en 2004. Et bien, dans une interview audio mise en ligne par l'excellent site Reason Magazine, Roach critique ce qu'il nomme l'argument de la sécurité émotionnelle, invoqué dorénavant par les militants woke pour exiger l'interdiction de tout ce qui leur déplaît. C'est un argument incompatible avec la société ouverte, dit-il. L'idée, c'est qu'une blessure émotionnelle cause une sorte de préjudice comparable à une blessure physique et que c'est donc une violation des droits. Mais le problème, c'est que le standard pour en évaluer la gravité est purement subjectif. Cela permet de censurer et d'annuler, comme seul, toute forme de critique et d'attribuer à la science des violations des droits de l'homme, fin de citation. David Brooks recommande aussi un essai de Hilton Holtz, paru dans le New Yorker sous le titre « My Mother's Dream for Her Son and All Black Children », un titre qui constitue une évidente réplique au fameux livre de Barack Obama « Dreams of My Father ». Holtz y revient sur les émeutes et les pillages auxquels il a assisté et il s'interroge sur leur signification. Ce n'est pas qu'ils essayaient de devenir des hommes, écrit-il, des hommes ils l'étaient déjà, mais afin d'obtenir le poids qu'ils percevaient chez les hommes blancs, il leur fallait rejeter à un certain degré le silence que leur avait enseigné leur mère. S'ils allaient mourir, ce serait mourir en criant. David Brooks recommande également l'étude publiée par Brandon Vaidyanathan qui s'appelle « Systemic Racial Bias in the Criminal Justice System is not a Myth ». L'auteur y démontre, faits et chiffres à l'appui, que le racisme systématique de la justice aux États-Unis n'est pas un mythe, comme le prétendent en ce moment certains auteurs conservateurs. Brooks confesse avoir été convaincu par le style, je cite, « calme et méthodique » du texte qui, dit-il, ne cherche pas l'outrage. Il recommande aussi un texte bouleversant écrit par une infirmière en première ligne contre le Covid qui, rappelons-le, a déjà tué 360 000 personnes aux États-Unis et qui s'appelle « The Shape of the Shore », la forme du rivage. Rana Aoudish, son auteur, écrit « Je ne me reconnais plus, je ne sais plus où je suis, j'empêche une mère d'approcher son bébé, il me faut la traiter comme si elle était une menace pour son propre enfant ». Et sur le sujet du Covid encore, le grand sujet de l'année, tout de même, Brooks recommande un papier paru sur The Atlantic, dans la revue The Atlantic, qui s'appelle « How Pandemic Defeated America ». Son auteur, Ed Yong, y analyse le fiasco de l'administration Trump dans la gestion de l'épidémie. Il écrit « Les tests de diagnostic étaient faciles à fabriquer, c'est pourquoi l'incapacité des États-Unis à en créer paraît inconcevable ». Et il écrit aussi « Les laboratoires privés ont été étranglés par la bureaucratie et cela doit nous rappeler quelque chose.
Merci Brice Couturier, absolument, on voit un peu la comparaison. Merci beaucoup Brice pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et également sur l'application Radio France. On vous retrouve demain dans un court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.